au seuil de cette rencontre, nous nous remettons encore sous la motion de l'Esprit Saint. Nous prions le Père de nous révéler le visage de son Fils Jésus, dont nous sommes disciples, dont nous sommes les ministres. Et ensemble nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, chers amis, chers prêtres, nous sommes au quatrième jour de notre retraite. Demain, la journée sera un peu particulière. Je pense que vous le savez, au niveau de l'emploi du temps, il n'y aura pas la messe le matin. Nous aurons le chemin de croix et cela tombe providentiellement très bien, puisque demain matin, je vous ferai un entretien un peu particulier, je vous en reparlerai, autour des chapitres 18-19. Donc nous aurons le chemin de croix et puis nous traverserons la croix et le mystère de la croix en Saint-Jean immédiatement après, avant un entretien final de vendredi après-midi autour du chapitre 20 et du chapitre 21 de la résurrection du Seigneur. Voilà. Ce matin, nous sommes à Béthanie pour cette rencontre qui inaugure l'entrée dans l'heure pour laquelle Jésus est venu, le Triduum pascal. Et peut-être n'est-il pas inutile, vous avez peut-être lu depuis le chapitre 9 où nous étions arrêtés hier, premier jour, souvenez-vous, nous étions arrêtés au chapitre 1 et 2, être disciple de Jésus, les conditions pour l'être, la vie d'union à laquelle nous sommes appelés. Le deuxième jour, nous avions vu les grands moyens de la vie spirituelle, il y en a d'autres, mais nous avions vu la parole de Dieu, la prière, au sens large. Hier, nous nous sommes arrêtés sur le combat spirituel qui pouvait empêcher cette union, et j'ai évoqué le mal subi, le mal choisi, c'est-à-dire le péché et la blessure, qui, l'un comme l'autre, peuvent concourir à la croissance spirituelle et à notre vie de sainteté. Et puis, ce chapitre 8 et 9, je ne sais pas si vous vous en souvenez, notre premier jour, chapitre 1 et 2, nous étions juste avant la Pâque, de la première année de ministère de Jésus. Chapitre 3, c'était la Pâque, Nicodème. Chapitre 4, juste après la Pâque. On avait retrouvé Jésus, nous ne l'avons pas fait ensemble, mais je vous avais invité à le lire. Au chapitre 5, c'était l'automne de la première année de son ministère, la fête de Soukhot, fête des tentes. Et puis nous étions passés directement, sans savoir ce que Jésus avait fait l'hiver, au chapitre 6, que nous n'avions pas vu ensemble non plus, mais qui était juste avant la Pâque de la deuxième année de ministère. Chapitre 7, chapitre 8 et 9, c'est Soukhot de la deuxième année, donc l'automne de la deuxième année. Ce que nous avons vu hier, chapitre 8, chapitre 9, avait lieu durant l'automne, fête de Soukhot, fête des moissons, début de l'automne. Et puis, l'hiver a passé, et nous avons un passage au chapitre 10, fête de la dédicace. C'était l'hiver, Jésus est en train d'enseigner, il semble que la tension avec ses détracteurs s'est un peu calmée, et puis quelque chose va relancer l'agressivité de ses détracteurs, puisque chapitre 11, on est à la sortie de l'hiver, c'est son ami, l'ami de Jésus, Lazare, qui va mourir, et Jésus qui va se rendre à Béthanie pour la résurrection de Lazare, pour relever Lazare d'entre les morts. Et vous le savez, c'est à partir de ce moment-là que la tension ultime qui va mener à la mort et à la croix va se développer. Et c'est dans ce contexte, donc, nous sommes au printemps, va arriver la fête de la Pâque. La Pâque des Juifs était proche. À la veille de cette Pâque, beaucoup de gens montèrent de leur campagne à Jérusalem pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et dans le temple où ils se tenaient, ils se disaient entre eux: « Qu'en pensez-vous? Jamais il ne viendra à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer, afin qu'on se saisisse de lui. Voilà. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et arrive alors cette scène, cette rencontre entre Jésus et Marie de Béthanie. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où se trouvait Lazare, qu'il avait relevé d'entre les morts. On y offrit un dîner en son honneur. Marthe servait tandis que Lazare se trouvait parmi les convives. Marie prit alors une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. Alors Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui-là même qui allait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il parla ainsi, non qu'il eût souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que chargé de la bourse, il dérobait ce qu'on y déposait. Jésus dit alors « Laisse-la, elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » Cependant, une grande foule de Juifs avait appris que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus lui-même, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts. Les grands prêtres, dès lors, décidèrent de faire mourir aussi Lazare, puisque c'était à cause de lui qu'un grand nombre de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus. Voilà, nous allons aborder ce texte, si vous voulez bien, en trois temps. D'abord, nous allons nous arrêter sur la scène de cette rencontre entre Marie de Béthanie et de Jésus, qu'on pourrait appeler l'icône de la charité. Marie de Béthanie répand l'onction de son amour sur le Christ, signifié par le parfum. Deuxième temps alors, nous verrons comment cette mission de répandre la charité, c'est notre mission de ministre du Christ. Nous avons à répandre le parfum de la charité, nous aussi. Et puis dans un troisième temps, nous verrons ce qui peut obscurcir, être un obstacle dans ce fait de répandre la charité sur ceux qui nous sont confiés. Donc le contexte de ce tableau de l'icône de la charité avec Marie de Béthanie. Nous sommes 6 jours avant la Pâque, la fête de Pessah, fête du passage selon l'étymologie d'Augustin, mais qui correspond plus, dans, vous savez bien, dans l'étymologie juive, à l'idée d'un saut, d'un bond. C'est l'idée du terme Pessah. Et donc l'onction à laquelle nous allons assister va préparer le passage du Christ vers le Père. La scène doit être assez étonnante, puisque se trouve là d'abord Lazare, qui vient de vivre une expérience existentielle un peu particulière. Il a quand même été relevé d'entre les morts 4 jours après être décédé. Je ne sais pas ce qu'il racontait à table à ses sœurs et à Jésus, mais enfin, ça devait quand même être un peu particulier. Voilà. Même si ce n'est pas une résurrection au sens où nous l'entendons, c'est un retour à la vie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, que va-t-il se passer ? Il y a Lazare qui l'avait relevé d'entre les morts. On offrit un dîner, Marthe servait. Ça, on sait qu'elle sait le faire, hein. On l'a appris dans Saint-Luc. Elle est même un peu agitée. Et Lazare se trouve parmi les convives. Et voilà, au partir du verset 3, le geste de Marie. Marie prit alors une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. Voilà. Ce geste étonnant. Que va faire Marie de Béthanie ? Elle va prendre une livre d'un parfum de nard pur. Vous savez, bien évidemment, vous prêchez, vous avez prêché 30 fois, 50 fois sur ce passage. Vous savez bien sûr que ce que l'Évangile nous montre ici, c'est un geste totalement démesuré. Puisque Marie de Béthanie, pour le geste qu'elle va faire, pour l'onction du corps de Jésus, va prendre l'équivalent pratiquement d'une année de salaire de parfum. Ce parfum, dans le grec de l'évangile, qui est un parfum pistikos, en grec, pistis, la racine, un parfum de foi, au sens littéral. Un parfum de foi, alors on pourrait se dire elle répand sa foi d'une certaine manière, parce que c'est ce par quoi elle croit qui lui porte à répandre le parfum, il y a un jeu de mots, mais le jeu de mots est aussi un jeu de mots qui correspond à la réalité, puisqu'en fait, lorsqu'on achetait du parfum à l'époque du Christ, bien évidemment, on n'allait pas chez Sephora ou Marionneau, puis on avait son petit vaporisateur. Hein. Non, quand on achetait du parfum, le parfum était conditionné en général dans des ampoules d'ambre, et on ne pouvait pas, évidemment, essayer le parfum avant de l'acheter. Donc on l'achetait les yeux fermés, on faisait un acte de foi, un acte de confiance. Voilà. Et c'est au moment où on utilisait le parfum que ce parfum se révélait ou gâter ou être un excellent parfum. Vous avez le geste, d'ailleurs, dans l'équivalent, le seul qui nous donne ce geste à part, il y a vraiment ce détail, vous avez ça, c'est Saint Marc au chapitre 14. Nous avons un autre récit de Béthanie, et on nous dit, une femme vint avec un flacon d'albâtre, contenant un parfum de nard pur et très coûteux, elle brisa le flacon d'albâtre et lui versa le parfum sur la tête. Pour avoir accès au parfum, il fallait casser le flacon, comme on casse une ampoule, par exemple, pour un médicament. Alors ce geste de Marie de Béthanie a été beaucoup commenté, c'est un geste étonnant, vous le savez bien. Pourquoi les onctions de la tête étaient fréquentes dans le monde juif? Pensez à l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron pour la consécration des prêtres. Parfois la consécration des prophètes. Et nous avons gardé dans notre tradition catholique l'usage de l'huile de l'onction. Bien évidemment, les mains des prêtres, les têtes des évêques sont ointes au moment de l'ordination. L'onction de la tête était fréquente dans le monde juif. L'onction des pieds existait, mais l'onction des pieds était une tâche d'esclave. C'était le travail que faisait l'esclave quand son maître rentrait à la maison. Il avait marché avec des sandales, ses pieds étaient pleins de sable, de saleté. On lui lavait les pieds. On verra le geste cet après-midi, puisque nous serons en Jean 13. Donc on retrouvera un aspect de ce geste. Et puis ensuite, l'esclave oignait les pieds de son maître avec de l'huile pour entretenir la peau. Voilà. Donc l'onction des pieds était quelque chose de très particulier et un geste qui était fait par des personnes dévalorisées dans la société. Puisque, on le verra cet après-midi aussi, les esclaves juifs n'étaient pas obligés de laver et de faire l'onction de leur maître juif, parce que les juifs avaient des esclaves juifs. On a du mal à comprendre ça, mais même entre juifs, les rapports étaient complexes. Donc, les maîtres juifs qui avaient des esclaves juifs ne pouvaient pas obliger leurs esclaves juifs de leur laver les pieds, parce que le geste était trop humiliant. Il y avait des esclaves de catégorie 1, de catégorie 2, etc. Eh bien, Marie de Béthanie fait un geste d'esclave. Une tâche d'esclave. Qu'il dit son intention évidemment aimante, absolument gratuite, qui signifie qu'elle se situe comme quelqu'un de totalement donné au Christ. Elle reconnaît sa messianité. Souvenez-vous du petit dialogue entre Marthe et Marie et Jésus au moment de la résurrection de Lazare. Si mon frère avait été là, il ne serait pas mort. Où l'on apprend d'ailleurs que Lazare, Marthe et Marie étaient de spiritualité pharisienne. Vous avez traversé le chapitre 11, Marthe, Marie et Lazare sont de spiritualité pharisienne, puisqu'ils croient à la résurrection, ce qui n'était pas le cas des Sadducéens. Ce qui nous fait rappeler ce que Jésus utilisait comme sentence pharisienne lui-même. Donc on voit bien que ce sont des gens qui sont dans des cercles pharisiens, même s'il y a du conflit entre eux. Quel va être alors l'effet du geste? L'effet du geste est très intéressant. L'effet du geste, c'est, nous dit l'Évangile, que la maison fut remplie de ce parfum. Non seulement elle a oint les pieds, la tête de Jésus, le corps de Jésus, les pieds de Jésus, pardon, mais ce parfum va se répandre dans la maison. La maison oikos, en grec, qui va donner l'oïkouméné, c'est-à-dire le monde. C'est-à-dire que le geste que fait Marie de Béthanie est un geste d'anticipation de la bonne odeur du Christ qui va se répandre dans le monde, comme le dira en particulier l'apôtre Paul dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Répandre la bonne odeur du Christ dans le monde. Et cette interprétation, elle est corroborée par saint Marc, puisque saint Marc nous ajoute une petite phrase de Jésus à l'égard de Judas qui vient se plaindre qu'on n'ait pas utilisé l'argent pour autre chose. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait, dit Jésus en Saint Marc. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Une nette perspective liée au mystère pascal. En vérité, je vous le déclare, vous avez la formulation qui montre la dimension solennelle de ce que Jésus est en train de dire, en vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé l'évangile dans le monde entier, l'oikos, l'oikouméné, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle a fait. Donc le geste a une dimension missionnaire. Le geste de Marie de Béthanie. Il s'agit de répandre la bonne odeur du Christ, de répandre le parfum du Christ partout dans le monde. Comme une anticipation aussi de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui emplit l'univers, comme le dit la première alliance. Quelle est la réaction des apôtres et surtout celle de Judas ? Bien, la réaction des apôtres, et particulièrement celle de Judas que nous avons ici, c'est qu'ils ne comprennent pas ce geste de Marie de Béthanie. Ils ne comprennent pas ce geste. Ce geste qui est un geste de démesure de l'amour. Souvenez-vous, je vous avais dit, le traité de l'amour de Dieu de Saint Bernard, les deux premières questions du traité de l'amour de Dieu, pour quelles raisons faut-il aimer Dieu ? Il faut aimer Dieu par amour, parce que l'amour n'a pas d'autre raison que lui-même. Et quelle est la mesure de cet amour ? C'est de l'aimer sans mesure. C'est la vie théologale. La vie morale, vous savez bien, c'est une affaire d'équilibre vertueux. Virtus latin medio, c'est un équilibre entre des extrêmes. La vie théologale n'a pas d'équilibre. C'est un absolu. La foi, l'espérance et la charité sont un absolu parce qu'elles ont Dieu comme objet, comme finalité. Et donc non seulement Judas n'arrive pas à entrer dans le geste de Marie de Béthanie, il ne comprend pas ce geste, ou il n'est pas capable de le comprendre, mais en plus on comprend pourquoi il ne peut pas le comprendre, c'est que son cœur est corrompu. Parce qu'il aurait été peut-être légitime de poser la question, est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser ça pour autre chose ? Mais ce n'était pas sa question, puisqu'on apprend qu'il était voleur et qu'il piquait dans la caisse. Donc, même sa question manque de pureté d'intention. Et la réaction de Jésus, vous le voyez bien, elle est sans ambiguïté par rapport à la remarque de Judas. Laisse-la, elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. Vous voyez, ici, Jean prend exactement la même formule que saint Marc. Des pauvres, vous en avez toujours avec vous. Ça, c'est le réalisme du Christ. On a voulu en faire un marxiste, mais c'est rasté quand même. Des pauvres, vous en avez toujours avec vous. C'est un constat, malheureusement, que nous faisons tous. La pauvreté durera autant que le monde durera, avant le retour du Christ. Là, ça va barder. Des pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Par lequel Jésus est en train de signifier quelque chose qui nous rapproche de ce qu'il a dit à la Samaritaine en Jean 4, quand il disait « Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, souvenez-vous. » Le Père cherche. Et Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire à ses apôtres ? Des pauvres, vous en aurez toujours, mais il y a un pauvre que vous avez maintenant au milieu de vous. Et ce pauvre, c'est moi d'abord. Moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Moi qui suis le pauvre, puisque jusqu'à la croix, je dirais, j'ai soif d'être aimé par vous. Et donc nous passons de la pauvreté matérielle à laquelle Judas faisait allusion, comme toujours en saint Jean, à un autre niveau de lecture, qui est la pauvreté dans l'ordre de l'amour. Le Christ, comme l'ont dit bien des auteurs, Catherine de Sienne, mendie notre amour. Il se tient à la porte, il frappe, et bien des fois, nous ne l'entendons même plus frapper. Où cela peut nous arriver. Donc la révélation qui nous est faite ici, c'est ce geste de Marie de Béthanie qui répand son amour, l'onction sur le corps du Christ, qui annonce évidemment sa sépulture, mais qui annonce aussi que l'Évangile sera proclamé dans le monde et qui annonce aussi que le Christ est le pauvre qui attend notre amour. Deuxième temps alors, ce geste de Marie de Béthanie, c'est d'une certaine manière notre mission de prêtre. Car ce geste de Marie de Béthanie, geste de bonté, d'offrande, ce geste missionnaire de don de soi, honorant le corps du Christ, c'est finalement notre propre mission. Car quelle est notre mission, sinon honorer le triple corps du Christ? Comme le disait la grande théologie médiévale. Honorer le corps du Christ d'abord dans le corps des Écritures. Quand nous avons proclamé l'Évangile et que nous allons commenter l'Écriture, nous honorons l'Évangélière et nous honorons non pas le livre, nous ne sommes pas des bibliolâtres, hein. Nous ne sommes pas une religion du livre, vous le savez bien, nous sommes une religion du Verbe incarné. Et celui que nous vénérons dans l'Évangélière, c'est le Christ lui-même, Verbum Domini. Et une grande partie de notre mission, celle d'enseignement, elle consiste à honorer le corps du Christ et à verser notre charité, notre amour de la parole pour la transmettre à d'autres. Nous avons à verser l'onction sur ce corps des Écritures. Par le don de l'Esprit, nous lisons cette parole qui devient vivante. Et c'est notre première mission, annoncer le Christ. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et nous avons aussi évidemment à verser la charité en honorant le corps du Christ qui est le corps eucharistique. Nous l'avons fait ce matin. Nous avons donné notre vie pour cela. Même si ce n'est pas le tout de notre vie, c'est le centre de notre vie. Le tout de notre vie, c'est le Christ lui-même. Et donc, nous avons à nous offrir, à nous donner, comme Marie de Béthanie l'a fait, quand nous célébrons les sacrements, et particulièrement quand nous célébrons l'Eucharistie. Et puis, la troisième dimension par laquelle nous honorons le corps du Christ, c'est le corps mystique, c'est-à-dire l'Église et la part de l'Église qui nous est confiée. Et nous sommes appelés, là aussi, à répandre la charité en nourrissant les hommes, les femmes qui viennent à nous, en les servant dans l'onction de la charité. J'aimais bien dans les oraisons ce matin, cette oraison qui nous parlait de la douceur liée au ministère. Je ne sais pas si vous avez été attentifs à ça. Le cœur doux et humble du Christ qui doit être le nôtre, avoir en nous les sentiments qui étaient dans le Christ. Cela, ça suppose, si vous permettez, de renouveler sans cesse et parfois de retrouver la légitime joie d'être ministre ordonné. C'est pas toujours simple en ce moment, on va pas se cacher et faire l'autruche. Hein. Et je peux vous dire pour ma part que je vois, chaque fois que je rencontre des frères évêques, chaque fois, et ça m'arrive un peu plus aujourd'hui comme vice-président, je vois bien le très grand souci, je peux vous dire, des évêques vis-à-vis des prêtres. Peut-être que vous ne le sentez pas, peut-être vous ne le sentez pas toujours, parce qu'il y a une pudeur aussi, parce qu'on ne sait pas parfois très bien comment vous le dire, mais l'affection des évêques pour les prêtres est profonde, et ils savent très bien que les moments dans lesquels nous sommes sont très difficiles. Voilà. Ça, je souhaitais vous le dire quand même et vous le redire quand même. Alors comment renouveler sans cesse la joie d'être ministre ordonné ? Eh bien, peut-être faut-il revisiter les fondements de notre ministère en lien avec le Christ. Je vous propose d'en parler un petit instant maintenant. Le problème de base, vous le savez bien, c'est que si nous réfléchissons à notre ministère sacerdotal et notre lien au Christ, c'est qu'il y a d'abord le ministère, le sacerdoce du Christ grand prêtre. Or, le problème, c'est que le Christ, pour l'histoire, comme juif, membre du peuple juif, le Christ n'est ni prêtre ni grand prêtre. Il n'est pas prêtre et grand prêtre selon la première alliance. Il n'est pas de la tribu de Lévi, il n'est pas un Cohen. Par contre, son cousin Jean-Baptiste, lui, est de famille sacerdotale. Son père est prêtre du temple. Mais le fait d'être cousin ne vous légitime pas. Dans sa famille, Jésus a des prêtres, mais il n'est pas prêtre lui-même. Par contre, pour notre foi catholique, il inaugure un nouveau sacerdoce dont il est le prêtre unique. C'est-à-dire qu'entre la première et la seconde alliance, il y a à la fois une rupture et une continuité du sacerdoce. Ce qui est certain, c'est que au début de la vie de l'Église, il était très difficile de parler de Jésus comme prêtre. D'abord, dans l'Évangile, il faut être honnête, il n'y a pas énormément d'endroits où Jésus fait des allusions à un ministère sacerdotal qui serait le sien. Il y a bien évidemment la scène, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. C'est-à-dire que Jésus fait une grande théorie sur le fait qu'il est prêtre. Si vous trouvez ça quelque part, je suis preneur. Il n'y a pas. Et donc, comme le dit très justement Benoît XVI dans la catéchèse qu'il avait fait dans l'année sacerdotale aux prêtres de Rome, la catéchèse, il dit « Il faudra attendre la deuxième génération chrétienne pour élaborer une théologie du sacerdoce du Christ. » La première génération ne pouvait pas le faire. Pourquoi ? Pour une raison très simple, Jésus, comme dit, n'était pas prêtre. Et de plus, ce sont les grands prêtres qui l'ont mis à mort. Voilà. C'est quand même le Sanhédrin, c'est quand même les pharisiens et les grands prêtres qui ont conduit à la mort du Christ. Donc imaginer que Jésus soit prêtre était une absurdité et quelque chose de totalement incohérent pour la première génération chrétienne. C'est à partir de l'épître aux Hébreux, des deux épîtres de Pierre, de l'Apocalypse, de l'Épître aux Romains, que va s'élaborer progressivement une nouvelle manière de comprendre le Christ et un approfondissement, l'Esprit Saint conduisant l'Église vers la vérité tout entière. Et c'est là que va se développer la christologie sacerdotale. J'ai eu pour ma part la grâce à Rome d'avoir, entre autres, comme éclairage du cardinal Vanois, qui était le grand spécialiste de l'Épître aux Hébreux, et qui nous a bien éclairé sur ce mystère-là. Ce développement de la christologie sacerdotale donc se fait avec une certaine distance des événements pour relire les événements. Il y a un réel sacrifice du Christ. Sa mort est un sacrifice. Mais ce n'est pas un sacrifice rituel, c'est un sacrifice existentiel. Jésus, en fait, tout au long de sa mission, mais surtout dans l'apogée du mystère de la croix, bien évidemment, qui est le culmen du don de lui-même, va vivre l'offrande de lui-même, va vivre une oblation de lui-même, et va subir à la croix, on y reviendra, l'immolation comme nouveau médiateur et comme médiateur définitif entre le Père et nous. L'oraison ce matin, d'ailleurs, c'était l'oraison... Dernière oraison parlait du Christ médiateur. Cela suppose pour nous, si vous le permettez, de nous arrêter un instant sur la notion de sacrifice. Bon, tout le monde parle aujourd'hui avec beaucoup d'excitation, je trouve. Qu'est-ce que c'est que cette notion de sacrifice ? Il faut nous rappeler d'abord que le sacrifice est une notion païenne. C'est qu'un mécanisme rituel qu'ont élaboré les hommes dans le but d'apaiser les divinités ou d'obtenir d'elles quelque chose. Au départ, c'est ça le sacrifice. Et le sacrifice, en ce sens, a deux grands actes qu'il constitue, avec la consommation du sacrifice à la fin. Le premier acte, c'est l'oblation, on offre quelque chose à la divinité. Et puis l'immolation, c'est-à-dire on détruit ce qu'on offre, et on détruit en général par le feu. Et la montée du feu et de la fumée vers la divinité fait que le sacrifice est agréé, on peut consommer le sacrifice est accompli. Voilà. Aussi simple que ça. Avec celui qui a beaucoup parlé de cette question, c'est en particulier un Français qui a dû s'exiler aux États-Unis pour réfléchir à ces choses-là, qui s'appelle René Girard, qui était académicien. Il y a beaucoup écrit sur le sacrifice, le sacré, et en particulier sur le sacrifice du Christ, qui s'est même converti au catholicisme, chemin faisant. Voilà. L'Ancien Testament va assumer cette notion de sacrifice, qui est une notion donc, qui appartient au monde païen. Va en changer le sens et va purifier cette notion. On garde l'articulation. On garde l'articulation, l'oblation, l'immolation. Et le prêtre, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais dans le monde antique et dans le monde païen, il y a des prêtres pour opérer l'oblation et l'immolation. Dans le monde juif, c'est la même chose. Il faut des prêtres pour opérer l'oblation, l'immolation, par le feu. Mais il y a un grand changement, c'est que le sacrifice est compris comme une réalité extérieure d'une offrande qui doit d'abord être intérieure. C'est pourquoi les prophètes s'élèvent au nom de Dieu contre les sacrifices à un moment donné. Pourquoi ? Non pas pour contester le sacrifice lui-même, mais la manière dont il est vécu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il fait des sacrifices extérieurs, mais il ne vit pas le sacrifice intérieurement, spirituellement. Il reste dans la formalisation du sacrifice. Vous savez bien les passages des prophètes, hein, je n'en peux plus de ces sacrifices, ces holocaustes, ou cette fumée d'encens. La fatigue de Dieu devant le sacrifice. Quand le sacrifice n'est pas vécu tel qu'il doit l'être. Donc le sacrifice de l'Ancien Testament, l'Épître aux Hébreux nous le disait ce matin, le sacrifice de l'Ancien Testament est une ébauche du sacrifice réel et du seul vrai sacrifice de l'histoire, dirait Girard. Tous les autres sont des anticipations, mais le seul vrai sacrifice de l'histoire, c'est celui du Christ. Alors, quel est ce sacrifice du Christ ? Le Christ n'est pas prêtre, on l'a dit. Mais il va vivre tout au long de sa vie publique un sacrifice existentiel. Il se donne au Père et aux hommes sans arrêt. Toute sa vie est donnée. Il n'a pas de lieu où reposer la tête. Et fidèle à ce qu'il annonce, à son message de réconciliation, le Christ va aller jusqu'à donner sa vie à la croix. Donc il va vivre l'oblation tout au long de sa vie, et à la croix, il fait l'oblation définitive de lui-même. Mais surtout à la croix, l'oblation de lui-même va se transformer en immolation, le Christ se donne, oblation, et il est immolé à la croix, puisque immolé vient, vous savez, en latin de mollo, moudre, et qu'à la croix, il est moulu. Comme on dira Saint Ignace d'Antioche, un moulu sous les dents des bêtes, le Christ est moulu sur la croix. Et les pères de l'Église diront, il est passé sur les meules de l'humilité. Il a été broyé à la croix. Donc il est immolé à la croix. S'offrant, étant immolé, son sacrifice est agréé et il est manifesté par le feu, comme dans tout sacrifice, mais le feu qui n'est pas le feu à la croix, mais le feu qui vient de la croix et qui sera le feu du matin de Pâques. Le feu de l'Esprit qui le ressuscite, qui est l'accomplissement du sacrifice. Ce qui signifie d'ailleurs que considérer le sacrifice uniquement à la croix n'est théologiquement pas juste. Le sacrifice est en vue de la résurrection. Sinon, il manque quelque chose. J'ai un ami théologien qui est membre de la commission théologique internationale qui dit toujours Les orthodoxes sont toujours dans la buée pneumatologique de la résurrection. Ils font un bond par-dessus la croix, même s'ils l'évoquent sans arrêt. Et les protestants, ils mettent le frein à main au vendredi saint. Voilà. Le mystère pascal, c'est le triduum. C'est la mort en croix, c'est le silence du samedi saint aussi. Et c'est la résurrection du matin de Pâques. C'est le tout. Et ce qui fait le sacrifice du Christ, c'est pour ça que le sacrifice est aussi un mémorial, c'est le mémorial de tout le mystère pascal. Donc le Christ est constitué médiateur par l'oblation et l'immolation qu'il a fait de l'humain. Ce qui était dans le monde païen, ce qui a été transformé dans l'ancienne alliance, ce qui est vécu de manière unique et nouvelle par le Christ, c'est-à-dire un sacrifice nouveau, pour lequel il n'y a pas de prêtre, sinon lui-même. Il est à la fois l'offrande, le prêtre, la victime. Eh bien, ce sacrifice du Christ, ce don du Christ, eh bien, chaque disciple de Jésus qui reçoit la vie du Christ est appelé à y entrer. Comment ? Par le baptême. Nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. Romains 6. Donc ce que Jésus a vécu existentiellement, son sacrifice, nous y entrons sacramentellement par le baptême. Nous sommes crucifiés avec lui, morts avec lui, morts au péché et ressuscités avec lui. Ce qui veut dire que désormais, tout homme, toute femme plongée dans la vie du Christ, qui a reçu la vie du Christ en lui, est appelé à vivre à la suite du Christ l'offrande de sa vie. Ça prend rien, hein, c'est l'épître aux Romains. Faire de sa vie une offrande spirituelle, un culte raisonnable, hein, logiké latreia, voilà, c'est le culte que les baptisés sont appelés à vivre comme disciples de Jésus. Donc tous les disciples baptisés plongés dans sa vie sont unis à lui et font l'offrande de leur vie. C'est le sacerdoce baptismal. Peuple de prêtres. Qui n'est pas un sacerdoce personnel et individuel, qui est un sacerdoce collectif. Parfois, le rappeler à nos baptisés dans les églises. Toujours quelqu'un qui vous dit, mais au baptême, je suis devenu prêtre, prophète et roi. Calmons-nous, on va s'expliquer. Oui, puisque le mot prêtre en français, il est équivoque, et qu'on utilise le même mot pour le sacerdoce baptismal, vous le savez bien que pour le sacerdoce ministériel, ça complique un peu tout. Il faut leur expliquer, c'est pas la même chose. De l'unique sacerdoce du Christ vont dériver deux sacerdoces. Le sacerdoce baptismal que je suis en train d'évoquer ici. Et donc le baptisé est appelé à se donner à la suite du Christ, à se sacrifier, sacerfare, faire du sacré, hein, se donner, à faire l'offrande de son existence pour être transformé progressivement par la charité, autant que faire se peut en ce monde, et définitivement dans la gloire. Voilà. Je ne vous apprends rien. Mais, il ne suffit pas qu'il y ait l'oblation de soi. Le sacerdoce baptismal assume l'oblation. Mais pour que le sacrifice soit accompli, il faut l'immolation. La médiation nouvelle. Jésus l'a réalisé lui-même à la croix. Mais pour que l'offrande du peuple saint puisse s'accomplir, encore faut-il qu'il y ait immolation. Comment cela va-t-il se faire? Il nous faut alors retourner en arrière, dans la mission du Christ. Jésus, vous le savez bien, je vais très vite, vous êtes des prêtres, vous savez tout ça mieux que moi. Jésus a appelé les 12. Tout au long de sa mission, il va identifier les 12 avec lui-même. Comme Jésus est relatif au Père, les 12 vont devenir relatifs au Christ. Pensez à la formule de Jésus, « Qui vous écoute, m'écoute », en parlant aux 12. Comme Jésus est la visibilité du Père, les 12 deviennent la présence et la visibilité du Christ. Et pourquoi c'est important? Parce que le salut que le Christ est venu opérer, le Christ l'a opéré en visibilité. Dieu aurait pu nous sauver sans incarnation, mais il a choisi de nous sauver par l'incarnation. Celui qui était invisible se rend visible. Vous avez prié ça dans les préfaces de Noël. Et il faut, pour que le salut soit accessible aux hommes, que ce salut soit visible, identifiable. Ou alors vous inventez un monde, un autre christianisme qui s'appelle le protestantisme, où chacun peut, d'une certaine manière, dans une relation personnelle et directe, avoir accès au salut. Alors là, vous faites l'évangélique. C'est possible, c'est un choix. Mais pour nous, comme chrétiens catholiques, nous croyons que l'incarnation n'est pas un hasard, c'est une volonté signifiée de Dieu qui veut nous sauver en visibilité, par des signes. Et donc Jésus appelle les douze, les identifie avec lui et les envoie progressivement pour les faire participer à son ministère pastoral et sacerdotal. Il va les faire entrer dans sa propre médiation. Et il leur donnera l'autorité pour enseigner en son nom et pour sanctifier le peuple saint en son nom. C'est dire que ce sont les douze, leurs successeurs et leurs collaborateurs, qui vont assurer dans l'histoire la visibilité de l'immolation, pour que le sacrifice unique du Christ soit actualisé dans l'histoire et offert à tous et à toutes. Pour cela, donc, en plus du baptême et du sacerdoce baptismal, il faudra un autre don de l'Esprit, une consécration particulière, pour être la présence visible du Christ tête et pasteur et agir en son nom. Et c'est le rôle des prêtres que vous êtes. C'est leur mission. Être la présence, la visibilité du Christ pour annoncer la bonne nouvelle, la célébrer, et en particulier comme médiateur par votre ministère, offrir le sacrifice du peuple saint et en assurer l'immolation sacramentelle par votre ministère. C'est ce que dit de manière très juste Presbyterum Ordinis, je vous le lis. En effet, vous connaissez ce texte, en effet, l'annonce apostolique de l'Évangile converge et rassemble le peuple de Dieu afin que tous les membres de ce peuple, étant sanctifiés par l'Esprit Saint, s'offrent eux-mêmes. C'est l'offrande du peuple saint, c'est l'oblation que les fidèles font d'eux-mêmes, leur sacerdoce baptismal. En victime sainte, vivante, agréable à Dieu. C'est Romains 12. Et le texte de Presbyterum Ordinis poursuit, mais c'est par le ministère des prêtres que se consomme le sacrifice spirituel des chrétiens. Là, c'est la dimension de l'immolation sacramentelle, de votre rôle de médiateur de l'Alliance nouvelle. Et c'est par le ministère des prêtres que se consomme le sacrifice spirituel des chrétiens en union avec le sacrifice du Christ unique médiateur. Nous participons à la médiation du Christ, offert au nom de toute l'Église. Ça, c'est Presbyterum Ordinis numéro 3. Que heureusement, dans la nouvelle traduction du missel, nous avons dans l'Orate Fratres, qui aujourd'hui marque beaucoup mieux l'articulation entre les deux sacerdoces, vous le savez bien, que ce n'était le cas jusqu'à présent, en langue vernaculaire. Pas en français. Parce qu'en italien, ce n'était pas le cas. Moi, j'ai célébré souvent en italien. Ça va ? Je n'ai perdu personne. Je n'ai sacrifié personne en cours de route. Et donc, voyez bien, entre parenthèses, je m'inspire ici du père Vanois, que j'ai eu comme enseignant, et en particulier des catéchèses de Benoît XVI dans l'année sacerdotale. C'est assez lumineux ce qu'il. Je ne sais pas si vous connaissez ces catéchèses. Et donc, voilà ce que nous devons sans cesse, je vous l'ai dit ce matin à la fin de mon homélie aussi, de mon petit mot, renouvelons sans cesse notre regard théologal sur notre ministère. Quand nous n'allons pas bien parce que notre ministère est dur et difficile, replongeons vraiment dans le Seigneur et replongeons sur ce qu'il a fait, il a voulu faire pour nous. retrouvons les racines de notre ministère. Vous savez, on est dans un monde, je vous l'ai déjà dit, où il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On est dans une sorte de présent continu, sous la pression de l'information. Il faut s'arrêter souvent, prendre du recul, se souvenir d'où nous venons et où nous allons. Nous sommes fondés dans le Christ qui a voulu que nous soyons prêtres. Et nous attendons son retour dans la gloire. C'est la grande grâce dans la liturgie rénovée de Vatican II de nous avoir mis l'anamnèse comme rappel de l'attente du retour eschatologique du Christ. Le sacrifice n'est pas le but. Parce que la messe n'est pas seulement un sacrifice, c'est un mémorial, c'est aussi l'attente eschatologique du banquet éternel. Il faut se souvenir de ça. Et donc ça signifie, si vous voulez bien, que nous avons, nous, à rester dans cette communion avec le Christ, dont je vous parle, je pense, depuis le premier matin de notre retraite, pour nous nourrir de ces fondements de notre ministère et pour pouvoir vivre de la manière la plus forte et la plus persévérante de ce qui est le cœur de notre vie de prêtre à la suite du Christ unique pasteur, c'est-à-dire la charité pastorale. La charité pastorale, je vous le rappelle, qui est au cœur de notre ministère, c'est le principe intérieur de la vie du prêtre. C'est le principe intérieur de la vie du prêtre. C'est comme disait Saint Jean-Paul II dans Pastores Labo Vobis, ce qui doit animer et dynamiser notre vie ministérielle. C'est ce qui donne force à notre volonté, si vous voulez. Et c'est ce qui doit guider et illuminer notre intelligence pour vivre ce ministère. La substance de la charité pastorale qui doit être la nôtre, c'est le don de nous-mêmes. Ça n'est rien d'autre, c'est le don de nous-mêmes. C'est le don de nous-mêmes qui nous pousse vers Dieu et vers les hommes. Puisque en Jésus, la personne et la mission sont identifiées. Et donc ça veut dire que nous sommes appelés, dans notre ministère, on en reparlera un petit peu cet après-midi, même si, bien évidemment, l'efficacité des sacrements ne dépend pas de notre degré de sainteté, et heureusement, mais en même temps, nous sommes appelés à nous sanctifier en vivant cette charité pastorale, et en sachant bien que toute la tradition spirituelle nous montre qu'il y a un lien intime entre sainteté personnelle et aspect fructueux du ministère et de la célébration des sacrements. D'ailleurs, le Concile le dit lui-même, Vatican II. Et cela veut dire pour nous en particulier, j'en termine sur ce deuxième point, assez long, assez dense, mais je tenais, puis je ne savais pas que nous allions célébrer ce matin. Le formulaire de la messe ne m'avait pas été indiqué avant, mais enfin, hier soir on en a parlé, donc je me suis dit mais ça tombe très bien. Puisque... Et en plus nous avons l'épître aux Hébreux durant toute la semaine, donc ça fait une révision. Voilà. En tout cas, cela veut dire aussi pour nous, et c'est important, d'adopter sans cesse pour vivre cette charité pastorale un style de vie sacerdotal. Et ça veut dire quoi, ce style de vie sacerdotal? Il faut le comprendre dans la lumière trinitaire. Le style de vie sacerdotal à la suite de Jésus, c'est d'abord une manière de penser, c'est-à-dire de mettre sans cesse au cœur de notre vie de ministre la priorité de la volonté du Père. La priorité de la volonté du Père. Je ne reviens pas dessus, on en a parlé en Jean 2. Mais notre style de vie sacerdotale, comme Jésus est tout le temps tourné vers le Père, nous invite nous-mêmes à être tout le temps tournés vers le Père. Deuxièmement, ce style de vie sacerdotal nous invite à entrer dans une imitation du Christ par un agir évangélique. une manière d'être évangélique, le cœur doux et humble de Jésus. C'est-à-dire avoir la délicatesse, le tact du bon pasteur. Pour donner le goût à ceux que nous rencontrons de rencontrer Jésus, tout en sachant nous effacer devant le Christ. Et ça, vous savez que c'est un gros, gros problème, aujourd'hui en particulier avec une vie très médiatique. C'est toute la question de la personnalisation du ministère. Autrefois, le ministère portait les personnes. Aujourd'hui, ce sont les personnes qui portent le ministère. On le voit partout, hein, dans le monde politique, c'est la même chose. Et le risque, puisque c'est la personne qui porte le ministère, c'est d'entrer dans une personnalisation du ministère et de devenir une vedette sacerdotale. Et aujourd'hui, c'est extrêmement facile. Pourquoi ? Parce qu'il y a des divisions dans l'Église, je ne vous apprends rien. Et parce qu'il y a des manières de mettre en lumière ces divisions, je ne vous apprends rien non plus. Mais je ne suis pas persuadé que ça enchante le Christ. Et je ne suis pas persuadé qu'à la fin des temps, quand nous le rencontrerons, ce sera la première des choses dont il sera satisfait. C'est vraiment ça, vous savez, le problème. C'est à la fin des temps, c'est au Christ que nous rendrons compte. C'est au Christ. Donc, voilà, vivre cette manière évangélique en nous détachant de ce jeu de l'ego, pas de l'ego en plastique, cette manière égotique parfois de vivre le ministère. Vous savez, il y a des gens parfois qui me disent « Bah oui, mais depuis qu'on célèbre face au peuple, évidemment, on est devenu des vedettes, il y a une druckerisation de la liturgie, si vous voulez. Hein. » C'est ma formule à moi, ça. Je ne l'ai pas déposé encore, mais je ne pense pas que ce soit le problème. Vous avez des gens qui sont capables de célébrer en s'effaçant devant le mystère, quelle que soit la direction dans laquelle ils prient. Puis vous avez des personnalités, vous ne les empêcherez jamais de faire les malins. Même en allant de la sacristie à l'autel. Je renvoie chacun à sa propre expérience et puis au combat que c'est aussi, parce que notre ministère nous met au centre, évident, et que ça peut nous monter à la tête, à tous. C'est pour ça qu'on met une mitre, nous, vous savez, hein, ça rafraîchit. Non, mais on voit bien le risque, quand on a des missions, quand on vous en donne de nouvelles. Comment ne pas perdre pied, comment rester, comment dire ça, oui, dans une forme de modestie. Alors Dieu parfois vous laisse de bons péchés. Souvent, il vous laisse de bons amis qui sont capables d'avoir la liberté de vous dire les choses. Je sais que j'ai des amis qui savent me dire « Vincent, arrête de faire le mariole. » Ça me remet tout de suite à ma place. Mais voilà. Quels sont les moyens pour rester dans cette attitude évangélique ? Pour ne pas tomber dans ce piège de la starisation sacerdotale. Je ne parle même pas de ceux qui, sur TikTok ou Snapchat ou ailleurs... Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est pathologique, à mon avis. C'est un autre ordre. Troisième élément de ce style de vie sacerdotale, je vois que ça évoque des choses, quand même. Hein. Une manière de penser envers le Père, une manière d'agir évangélique dans la lumière du Christ, et puis enfin, un mode de relation dans l'Esprit Saint. Et ça, c'est particulièrement, j'y reviens, cette question de l'effacement de soi-même. Être présent sans être présent, sans écraser. Ce que moi j'aime appeler la chasteté pastorale. Et bien sûr, il y a une chasteté des relations, etc., mais il y a une chasteté pastorale aussi. Comment aider les gens en laissant les gens libres ? Comment aider les gens en les laissant accéder à une vraie liberté intérieure ? Comment les laisser libres au point que, comme Jean-Baptiste, quand nous voyons partir deux disciples ou un dirigé ou eh bien voilà, nous les laissons à Dieu. Pas facile, hein. On n'aime pas. Ça vient toucher notre amour propre, c'est normal, c'est humain tout ça. Et quand on dit nous ne sommes que des serviteurs inutiles, etc. Oui, c'est vrai, et on peut commenter avec les pères de l'Église, et je sais bien. Sauf que notre psychologie humaine, elle a ses règles et ses lois, et surtout dans le monde d'aujourd'hui. La culture, il y a 1500 ans, n'était pas la même. L'anthropologie change, enfin, l'anthropologie culturelle. Mais en tout cas, c'est ce style de vie sacerdotale qui, je crois, est la source de notre crédibilité du ministère. Les vedettes, ça ne dure jamais longtemps et ça tombe en général de haut. Dernier point alors, j'en termine en quelques phrases. J'ai été un peu long, pardonnez-moi de ces longueurs. Les obstacles, justement, à la charité pastorale dans nos vies, je vous rends attentif à trois petites choses. Nous voulons tous, bien entendu, nous donner, nous sommes généreux. Nous avons entendu le curé d'Ars qui nous disait « On reconnaît les vrais amis de Dieu au fait qu'ils font les choses qu'ils ne sont pas obligés de faire. » C'est-à-dire nous sommes aussi capables d'entrer dans un don de nous-mêmes gratuit, au-delà de peut-être ce qui nous est demandé, sans nous épuiser non plus. Mais le risque dans la vie de ministériel, ce sont parfois des risques d'inertie ou de paresse dans certains domaines de notre vie. Et je vous invite peut-être dans cette retraite à visiter ces lieux. Je les évoque rapidement. D'abord, il y a un premier risque de paresse qui peut être une inertie et faire en sorte que la charité pastorale se développe peu dans notre vie. C'est le risque de paresse dans le développement de notre croissance spirituelle, le souci de notre union à Dieu. Vous savez, on demandait un jour au curé d'Ars, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de saints prêtres ? Et vous savez ce qu'il répondait ? Il faudrait qu'ils soient séminaristes toute leur vie. Ce serait bien d'avoir des gens qui restent séminaristes toute leur vie, mais on aurait rapidement un problème. Voilà. Donc c'est la question des moyens que nous prenons pour notre vie spirituelle. Je dirais que ça devrait être notre tourment ordinaire, notre vie intérieure, fortifier en nous l'homme intérieur, surtout par les temps qui courent, et nous fortifier ensemble, dans la vie fraternelle aussi, on y reviendra cet après-midi. Ça ne dépend pas seulement du quantitatif de ce que nous faisons, hein. J'ai dit mon bréviaire, j'ai dit mon rosaire, j'ai dit... C'est aussi une question qualitative. Les pères du désert disaient « le quantitatif finit par faire le qualitatif ». On a besoin des deux. Et ça rejoint surtout cette dimension de la demeurance avec le Christ. Donc, où est-ce que j'en suis de mon accompagnement spirituel, de ma retraite peut-être annuelle, de moments de récollection? Où est-ce que j'en suis? Voilà, faites le contrôle mystique, comme je disais déjà hier. Voilà. Deuxième risque. Le risque de paresse dans la discipline de vie, la dimension ascétique, si vous voulez. Sachant que l'ascèse ne consiste pas à faire les Jeux olympiques de la difficulté, mais consiste à nous libérer pour mieux aimer. C'est ça l'ascèse. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, c'est toute la question de notre développement en humanité, si vous voulez. Alors, je sais bien que certains diront « on me prend comme je suis ». Bien sûr, avec plaisir, surtout pour les autres. Voilà. Mais nous avons un travail spirituel à faire et nous avons aussi un travail sur nous-mêmes à faire humainement. Et ça passe par l'apprentissage, peut-être, ou le réapprentissage d'une maîtrise de soi, d'une certaine hygiène de vie. Quand on dort peu, on est de plus mauvaise humeur. L'hygiène de vie, c'est le besoin de s'aérer parfois pour être supportable par les autres. C'est en particulier pour nous l'attention aux compensations. C'est normal qu'on en ait, hein, mais l'important, c'est de les connaître et de les gérer. Voilà. On a tous besoin un peu, voilà. Mais la question, c'est est-ce qu'on connaît ces compensations? Est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est lucide sur ces compensations et est-ce qu'on les maîtrise ou est-ce qu'on est maîtrisé par elles? Et ça rejoint l'importance de se connaître. Ça passe donc beaucoup par l'accompagnement spirituel. Et ça passe aussi sur le travail sur les petites choses. Travail sur les petites choses. L'esprit de curiosité, l'indiscrétion, le bavardage, les occupations inutiles, la perte de temps pour les faux motifs. Vous savez, c'est un peu la poussière qu'on a dans les coins de sa vie sacerdotale. Ça. Voilà. On nettoie le milieu de la pièce et puis on ne fait pas attention aux coins. C'est comme dans les évangiles. Hein. Souvenez-vous ce que disait Thérèse de Lisieux lorsqu'elle est allée à Rome. Et pour la première fois, elle a vécu avec des prêtres. Et sa surprise, elle les pensait tous saints. Et elle s'est rendue compte qu'ils avaient des petits côtés. Voilà. Alors comment on travaille nos petits côtés ? Pour être plus aimable, pour être plus attentif. Dernier point, le risque de paresse par rapport à la culture dans laquelle nous vivons, le travail intellectuel, l'information. Dans le ministère, inévitablement, nous connaîtrons à un moment donné, sinon bienheureux êtes-vous, quelques échecs ou quelques désillusions. Et l'échec et la désillusion, rapidement, si on n'y prend pas garde, peuvent se transformer en manque de goût pour le travail apostolique. Vous avez des prêtres parfois qui, parce que voilà, ça ne marche pas, eh bien vont se replier sur eux. Les gens sont compliqués, ils ne comprennent pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Peut-être d'ailleurs, c'est peut-être pas faux. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous ouvrir à la compréhension du temps de l'histoire dans lequel nous sommes. Parce que pour discerner ce que nous avons à faire, à dire, nous avons vraiment besoin de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Pour accueillir la volonté de Dieu, pour savoir mettre des priorités, pour savoir avoir une critique positive, constructive, pour avoir une lecture théologale des événements. Et ça suppose le travail intellectuel. Ça suppose de continuer à creuser, d'aller de synthèses provisoires à d'autres synthèses provisoires, parce que vous ne maîtriserez jamais tout, en étant toujours ouvert à la réflexion. Parce que c'est cette réflexion en particulier qui vous montrera les opportunités dans la mission. Et qui vous fera peut-être mieux comprendre pourquoi certaines choses ne vont pas, ne fonctionnent pas, ou ne sont pas aussi fécondes que vous le pensiez. Donc, je vous invite à regarder ces trois points, si vous le voulez bien, et puis à reprendre de manière générale ce que nous nous sommes dit aujourd'hui, sur le ministère en particulier. Cet après-midi, nous nous retrouverons au chapitre 13 de Saint Jean, le dernier repas, le lavement des pieds. Nous irons du chapitre 1 du verset 1 au verset 17. 1 à 17, chapitre 13 de Saint Jean. Et je vous propose de nous remettre à celle qui est la mère du sacerdoce, qui était au pied de la croix. Qu'elle intercède pour nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame, Mère de l'Église, priez pour nous.